Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, ce soir qui va nous promener dans une galerie de femmes et d'hommes plus ou moins célèbres qui ont un lien étroit avec notre beau département de Lyon. Et j'ai le plaisir d'accueillir un auteur, je la salue et je la remercie, ça fait longtemps qu'elle aurait pu être devant ce micro. Ce soir, enfin, elle est là, elle est sur les banquettes de Wagon Livre. Josiane Maxel, bonsoir.
Bonsoir.
Merci Josiane donc d'être devant le micro de l'émission littéraire de Radion pour mettre un coup de projecteur sur un livre qui date un petit peu, qui a pour titre « Personnages de Lyon » et que vous avez fait paraître aux éditions du Panier d'Ortie, éditeur associatif indépendant, maison d'édition installée en Nièvre voisine et que dirige le truculent Richard Adam, qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir dans notre émission. Josiane, avant de vous donner la parole, je vais dans un premier temps vous présenter à nos auditrices et auditeurs. Vous avez 55 ans, vous êtes née à Paris, au pied de la butte Montmartre, de parents ouvriers. Vous êtes mariée avec un Lorrain, vous avez 3 enfants. Vous n'êtes finalement pas une iconaise de souche, vous arrivez dans le département de Lyon en 1989 et vous avez été directrice d'une agence de travail temporaire à Migennes et ensuite vous embrassez le métier de correspondante de presse puisque vous avez été pendant une dizaine d'années journaliste à Lyon Républicaine. Vous êtes, Josiane, oui ?
Correspondante de presse.
Correspondante de presse.
C'est le prolétariat du journalisme.
Vous avez été guide de pays et vous êtes une passionnée d'histoire locale, ce qui explique ce livre « Personnages de Lyon » dont on va parler d'ici quelques minutes. Vous adorez le régionalisme. Vous avez écrit plus de 25 brochures ou recueils auto-édités sur des thèmes extrêmement variés, sur les loups, sur les paysages, sur le bâti rural ou encore sur les Templiers dans Lyon. Et puis, il y a un personnage qui semble vous fascinez, c'est le personnage de la comtesse Mao de Courtenay.
Mais oui, parce que donc j'ai habité à Mailly-le-Château et puis donc sur cette façade d'église, il y avait ce personnage central et donc elle m'a permis de découvrir le XIIIe siècle dans le Haut-Nivernais et puis voilà, donc je me suis attachée à elle, on peut le dire, et puis voilà, puis de fil en aiguille. Je me suis formée pour être guide de pays et puis donc j'ai organisé des visites guidées dans des villages.
Parfait. Et aujourd'hui, vous êtes responsable d'édition pour un guide touristique bien connu, hein, qui est le Petit Futé.
Oui, c'est, j'ai de la chance de faire un métier passion.
Alors, Josiane Maxel, personnage de Lyon, votre abécédaire des personnages, comment opère-t-on des choix ? Qui a sa place dans votre livre ? Qui avez-vous mis de côté ? Qu'avez-vous privilégié ? Je veux dire, quelle est la ligne choisie pour élaborer un livre qui est un gros travail de recherche, de synthèse aussi, parce qu'on ne peut pas tout dire sur tout le monde.
Alors, je pensais faire au départ une liste, on va dire, de 100 personnages qui ont marqué le département. Et puis, je me suis dit, pourquoi une vie plus qu'une autre ? Et finalement, j'ai choisi des critères qui sont soit d'être né ou mort dans le département de Lyon, soit avoir vécu dans Lyon, et d'avoir eu un rôle dans le monde des arts. Donc, il y a des écrivains, des artistes en tout genre. Et il y a aussi quelques personnages historiques incontournables. Mais il n'y a pas la liste des députés, par exemple, de Lyon, parce que c'était pas ce que je recherchais.
Donc, un choix, une délimitation des femmes et des hommes qui devaient intégrer cet abécédaire, puisque le classement est alphabétique. Est-ce que on aurait pu procéder à un autre classement de ces personnages de Lyon.
Oui, mais enfin, en fin de compte, c'est ce qui est le plus simple. Donc, c'est un livre qui est un document de vulgarisation. Donc, j'avais pas envie non plus, par exemple, pour Pierre Larousse, de mettre plusieurs. Enfin, il y a déjà des livres entiers. Donc, il y a déjà pour des personnages les grands classiques, Paul Bert, Colette.
Le chevalier Déon.
Oui, enfin, il y a déjà beaucoup d'écrits, donc on retrouve aussi des informations sur Internet. Donc voilà, mais il y a quand même ces incontournables, Jacques Lacarrière, enfin bien d'autres, Rétif de la Bretonne, même si je l'aime pas tellement, c'est quand même lui qui a parlé en tout premier de notre patrimoine de pays, donc ça c'est intéressant pour moi. Donc voilà, j'avais aussi des critères divers et variés.
Par conséquent, le livre évoque des personnages qui ont un lien avec Lyon, parfois des liens de manière tragique. Je pense à Junie Astor, qui est une actrice morte dans un accident de la route à Sainte-Magnance en août 67, ou Albert Camus, par exemple.
Ah oui, là, c'est vraiment le personnage, c'est tristement célèbre, puisqu'il est mort dans Lyon, il y a même un monument. Hein,
donc, à Villeblevin.
Oui, c'est un jour tragique. Mais voilà, bon, donc après, c'est vrai qu'il y a ces personnages incontournables, même au niveau historique, parce qu'on a aussi Grévin, Théodore de Bèze, enfin, on a des gens, voilà, qui ont traversé le département, même Thomas Becket, c'est impossible de ne pas en dire quelques mots. Donc, il y a aussi dans d'autres domaines, comme le roi Gourand, enfin, c'est la référence. Donc, voilà, c'était des personnages incontournables, et puis aussi Marcel Aimé, voilà. Donc, c'est vrai que, après, pour les critères, j'ai pas parlé des personnages qui sont encore vivants, parce que, voilà, il faut aussi se mettre des limites. Donc, on a la chance d'avoir dans le département de Lyon encore beaucoup de personnages célèbres mais vivants. Donc, voilà. Donc, moi, pour être dans mon livre, il fallait aussi être mort et puis avoir vécu dans Lyon ou avoir donné. Avoir par exemple habité ou avoir fait quelque chose pour Lyon.
Si vous le voulez bien, on va mettre en suspens notre entretien pour marquer une petite pause. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité Josiane Maxel pour son ouvrage Les personnages de Lyon aux éditions du Panier d'Ortie. C'est un choix de notre invité. On écoute Bob Marley, No Woman, No Cry. Bonne soirée sur Radio. On se retrouve dans quelques minutes. De retour devant les micros de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radionne, avec Josiane Maxel, notre invitée pour son livre « Personnages de Lyon » disponible chez vos libraires aux éditions du Panier d'Ortie ou auprès de l'auteur. Hein, Josiane, vous avez quelques exemplaires.
Oui, avec plaisir, oui, il n'y a pas de souci.
Alors parcourons avec vous cette galerie de personnages, d'horizons et d'univers extrêmement variés. On va peut-être d'abord vous demander de nous donner quelques informations sur ceux que vous qualifiez des oubliés de l'histoire et qui méritent effectivement qu'on s'arrête sur leur personnalité ou surtout sur leur création. Je pense par exemple à Charles Laubry qui est né à Saint-Florentin.
Oui, alors Charles Laubry a été cardiologue et c'est un oublié dans Lyon. C'est un médecin cardiologue qui donc était un fils d'instituteur, il a aussi été sénateur et conseiller général, mais il a été fait aussi grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut, mais on ignore qu'il a, il a été surtout, il a créé la première chaire de cardiologie. Donc voilà, c'est une sommité, il a été appelé au chevet de Clémenceau, de Monet et de Blum, donc voilà.
Donc c'est Charles Laubry, né à Saint-Florentin, médecin cardiologue, il a même été collégien à Tonnerre. Enfin, c'est vraiment aussi très émouvant de se dire que nos villes, villages ont vu naître des personnes qui ont laissé plus ou moins une trace dans l'histoire, mais qui méritent en tout cas de ne pas être totalement oubliées.
C'est sûr que le lecteur va chercher par rapport, s'il y connaît, est-ce que moi j'ai dans mon village un personnage célèbre, parce que parfois on l'ignore. Bon, c'est vrai qu'on parlait des oubliés. Il y a par exemple Jean Berriat qui était comment médecin du roi. Bon, il y a René Renoux. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'était un chef décorateur. Donc lui, je crois qu'il est de Danières. Et puis il y a Félix Rabé, Tenon, parce que voilà, il y a un hôpital Tenon, mais on ne sait pas forcément. Donc ça, c'est dans le milieu plutôt scientifique.
Alors Félix Rabé, médecin de Maligny, cofondateur de la Société protectrice des oiseaux. Hein. C'est
mais
une
oui,
personnalité
incroyable.
Du 19e siècle, Félix Rabé.
Oui, un naturaliste. Et puis il y avait aussi, par exemple, Louis Noisette, qui était un agronome, qui était très connu en son temps. Donc c'est lui qui a dirigé, par exemple, les jardins et les serres de Val-de-Grâce à Paris, voilà. Donc il a suivi le prince Esterhazy en Europe. Enfin, c'est, j'ai découvert vraiment des personnages qui ont une vie incroyable.
Alors comment les découvrez-vous? Le hasard des lectures, des monuments commémoratifs dans certaines communes que vous avez traversées?
Alors donc c'est vrai qu'en étant guide de pays, il y avait déjà un certain nombre de personnages que je connaissais, puisqu'ils appartiennent au patrimoine, si on veut, de certains villages. Mais d'autres, non, il a fallu que je creuse un petit peu. Bon, je savais bien, par exemple, que Fernand Clat, il était de Leuny, mais je savais pas que c'était le fils d'un béto. Je savais pas plein de choses. Donc voilà, il y a des personnages qu'on redécouvre. Bon, moi, je savais que Marcel Aimé était né dans Lyon, à Joigny, mais c'est vrai qu'en fin de compte, il y a assez peu vécu. Donc on se rattache toujours Marcel Aimé, mais bon, voilà.
Alors, vous avez évoquer Fernand Clat. Alors,
oui.
Ça, c'est formidable. Ça va faire plaisir aux gens de la
Puisée, oui.
Enfin, du côté de Toussy. Parce que Fernand Clat est né à Leuny, petit village de Leuny. Il est né en 1868. Il meurt en 1935. Alors, Josiane Maxelle, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce poète patoisant, en fait?
Ah oui, oui, ben, on lui doit toute une série de contes. Donc, c'est vrai que ça s'écrit classe, mais on ne prononce pas le S. Donc, voilà. Et puis, donc il a accompagné son père, donc Adrien, qui était maire de Leuny et vétérinaire dans toutes ses tournées. Et je pense que ça lui a permis aussi d'appréhender le patois. Et donc, après, ça lui a servi pour le traduire dans les contes qui sont, en fin de compte, le reflet de la société à un certain moment, hein, notamment à la fin du 19e. Voilà. Et puis, après, il a travaillé à Paris. Et puis, il devait être notaire. Donc, vous imaginez, en fin de compte, pas été ça. Et puis, voilà, quoi. Il a raconté la vie de son époque manière truculente.
Finalement, bien sûr, il a laissé des textes en patois particulièrement intéressants aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il n'a pas eu une grande carrière de poète de son vivant. Parce qu'un peu trop attaché au patois de son pays.
Oui, mais c'était sa façon de... Voilà, de... Vous savez, pour Tillier, je pense que s'il n'y avait pas eu le film, on en parlerait aussi beaucoup moins. Donc après, voilà, il y a parfois des personnes... Peut-être un jour, on fera un film sur Clat. Bon, enfin, Tillier, il est de Clamecy. Attention, on n'est plus dans Lyon.
C'est-on jamais. Alors, par exemple... Il y a un personnage qui apparaît dans votre livre, c'est Thomas Becket, qui lui est né à Londres au début du XIIe siècle, très précisément en 1117. Alors là, Josiane Maxelle, quel lien entretient Thomas Becket avec notre beau département de Lyon?
Le lien, c'est Pontigny, hein, puisque Thomas Becket, c'est un saint qui a été assassiné à Canterbury. Il était en conflit avec Henri II, et puis s'est exilé en France, et puis ensuite à Pontigny et à Sens. Et puis voilà, quoi. Donc c'est lié à notre histoire locale. Bon, c'est vrai qu'au niveau des personnages historiques, entre guillemets, finalement, il y en a assez peu. Il y a les grandes familles, hein, comme Châtelut ou Courtenay, et puis d'autres comme les Milles de Noyers, enfin voilà. Mais finalement, il y en a assez peu, parce que sinon, c'est pareil, c'est pas un livre d'histoire. Donc j'ai plutôt choisi. Et puis j'ai mis quelques saints, il faut quand même le dire, oui, c'est vrai, j'ai fait un choix, c'était pas évident. Saint-Germain.
Alors, voilà. un petit mot sur Saint-Germain. Donc là, c'est le 5e siècle. Hein. C'est bien avant Thomas Becket. C'est au 5e siècle. Saint-Germain, qu'on appelle encore Germain l'Auxerrois.
Tout à fait.
Une figure presque tutélaire pour la ville d'Auxerre.
Oui, c'est quand même grâce à lui Qu'Auxerre a été reconnue en son temps, donc ville de pèlerinage, pour découvrir le tombeau. Hein. Donc pourquoi ? Parce que finalement, Saint-Germain dit l'Auxerrois, il est mort à Ravenne. On a ramené son corps, comme vous le savez. Et puis donc, il y a des saintes qui sont liées aussi donc, à ce transport de corps, donc Palais. Donc qui a donné le nom à Sainte-Palais, donc avec une crypte merveilleuse, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Magnance, Sainte-Magnance, oui. Donc on a aussi des statues d'ailleurs assez récentes qui ont été réalisées, qu'on peut voir du bord de la route. Donc c'est la
oui, à la sortie de Sainte-Magnance, voilà. En allant, avant Rouvray, effectivement.
Mais on connaît Camille et Maxime, donc Sainte-Camille pour Écolive Sainte-Camille, bon voilà. Et puis Maxime, et la dernière, je ne sais pas si... Vous savez qui c'est Procaire, parce qu'elle, on l'oublie toujours. Donc voilà. Donc ça, c'est les saintes qui sont liées. Et puis j'ai parlé aussi dans le livre d'un lien particulier avec Saint Ursin, parce que Saint Ursin, donc c'était un de ses disciples, et il est enterré, enfin, il a eu une sépulture à Crin. Donc Crin, c'est dans la vallée de Lyon, voilà. Donc c'était intéressant aussi d'en parler, même si dans l'histoire c'est pas toujours facile de démêler ce qui est vrai et ce qui est la tradition, hein, surtout en matière de personnages, enfin les saints, hein, c'est pas toujours facile. Mais il y a par exemple Raoul Glaber aussi. Donc là, voilà, on en sait un peu plus. Bon, voilà. Donc j'ai donné aussi des informations. Ça, c'est un personnage du Xe siècle, donc voilà, que j'aime beaucoup. Donc oui. Voilà, il y a quelques saints qui ont, enfin, c'est difficile de démêler, mais on arrive à avoir.
Bon, on va laisser de côté les saintes et les saints. Si vous venez de nous rejoindre ce soir, sachez que vous écoutez Radion et que vous venez de monter à bord de Wagon Livre, le rendez-vous littéraire de votre radio locale. Un voyage au cœur de Lyon, de son histoire et au cœur des personnages qui l'ont illustré et qui ont porté loin les couleurs de notre département. Je rappelle donc que nous parlons de personnages de Lyon. C'est le titre de l'ouvrage de notre invité Josiane Maxelle que nous sommes heureux d'accueillir ce soir. Bonne soirée à l'écoute de Radion. On vous laisse le temps d'une petite pause en compagnie de Bernard Lavillier, Stan The Ghetto. A tout de suite pour la suite de notre émission avec Josiane Maxelle.
I'm not. it sounds so right. So all of the works are nothing fiana. Elle est noire et dorée. Elle est belle à crever. Regarde-la marcher et danser sans reggae. Fait trop chaud pour chanter. Fait trop soif pour noter. Trop beau pour t'expliquer ce qui se passe dans reggae.
Avant de retrouver notre invité, sachez que le 13 février prochain, nous vous proposerons dans Wagon Livre des extraits d'une conférence donnée par Christian Bobin, qui était venu à Vézelay en décembre dernier à l'occasion d'une rencontre organisée par la librairie L'Or des Étoiles et son libraire Laurent Equet, que nous saluons. Nous y parlerons de son dernier ouvrage, L'Homme Joie, paru aux éditions de l'Iconoclaste. C'est mercredi prochain à 21h, toujours sur Radion. Pour l'heure, retour au cœur de la galerie de portraits des personnages de Lyon avec notre invité Josiane Maxel. Alors Josiane, j'aimerais que vous nous donniez, que vous nous glissiez un petit mot d'Edme Champion, né à Châtel-Sansoir dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et très précisément en 1764. Voilà un gosse de Châtel-Sansoir qui finalement va s'avérer être un personnage philanthrope et généreux.
Mais oui, oui, parce qu'il a été, il a fait fortune déjà dans le diamant. Et puis il a voulu aider les pauvres de la région. Donc il a même été élu député alors qu'il s'était pas présenté. C'est incroyable. Je ne sais pas si on verrait ça aujourd'hui. Donc voilà. Donc il a fait des affaires comme je l'ai dit, et puis il s'est retrouvé à 53 ans millionnaire. Donc en 1817 il se retire et puis donc comme à cette époque-là, il y avait quand même un certain nombre de gens qui étaient dans le besoin,
dans l'indigence.
Voilà. Et puis donc il a aidé les autres en se mettant à faire de la soupe populaire, tout simplement.
En fait, vous écrivez même qu'il est.
Oui. C'est le petit manteau bleu, on l'appelle comme ça, parce qu'il avait toujours une capeline bleue. Donc voilà, c'est un personnage très attachant. Donc il est enterré au Père Lachaise.
Et c'est un ancêtre finalement de Coluche et des Restos du Cœur, certaine manière.
Bah oui, tout à fait.
Donc c'est Edme Champion, né à Châtel-Sansoir en 1764. Alors on reste à Châtel-Sansoir avec un autre personnage, lui-même né à Châtel-Sansoir, mais au début du 19e siècle, très précisément en 1833, c'est Gustave Coteau.
Oui, c'est ça, Gustave Coteau.
Alors, qui est Gustave Coteau? C'est Coteau.
Alors, Gustave Coteau, en fait, c'est le frère du naturaliste Edmond Coteau, donc qui a fait des récits de voyage très étonnants. Donc on a retrouvé des documents qui sont à la Société des Sciences et donc qui sont merveilleux, donc qui donnent une idée au XIXe siècle de ce qu'était l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc ça c'est très très intéressant. Et puis donc il a écrit un journal. Et puis Gustave Coteau, c'est un intrépide voyageur. Donc il a légué au Musée d'Histoire Naturelle d'Auxerre un très riche fonds. Donc ça c'est intéressant. Donc il est l'auteur d'un catalogue raisonné sur des fossiles. Enfin voilà, c'était aussi un paléontologue à ses heures. Voilà. Donc, alors, c'est un personnage très très
un aventurier,
pas énigmatique, mais qui a laissé tant de choses, et je suis sûre qu'il y aura encore des étudiants qui travailleront sur les informations qu'il nous a léguées.
Alors, dans la catégorie personnage intrépide, aventurier, courageux,
bah, on en a, hein.
je demande Louis Navarre.
Ah bah,
alors,
oui,
Louis
voilà,
Navarre,
c'est
formidable. Lui, il est né en 1836, il meurt en 1912, et c'est extraordinaire, grande figure religieuse. Qu'on retrouve à l'autre bout du monde.
Ah oui, oui, non, mais c'est l'archevêque des Papous, comme on dit.
C'est ça.
Donc, il est né en 1836 et il est mort en 1912. Donc, il est natif d'Auxerre. Il a été ordonné prêtre à Bourges. Et puis, on lui demande de partir évangéliser la Papouasie. Donc, c'est à 45 ans. Bon, à l'époque, on était déjà plus très jeunes. Donc, avec cinq autres prêtres et trois frères, donc il se rend en Papouasie. Et puis, donc, c'est un territoire énorme, bien sûr, et un challenge incroyable. Et puis, finalement, il est mort dans cette mission, quoi. Donc, c'est incroyable. Donc, lui c'était vraiment un personnage tout à fait étrange et oublié, il faut bien le dire, aujourd'hui.
Alors, je mentionne aussi un chirurgien qui est né à Seppo en 1724, qui est mort en 1816, c'est Jacques-René Thenon.
Oui, mais lui, il est un peu plus connu déjà, parce que Thenon, il y a quand même un hôpital à Paris. Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qu'il est né dans Lyon, mais bon, je pense qu'il n'est pas trop oublié, enfin, grâce au nom de l'hôpital.
En revanche, sait-on que Coulanges-sur-Yonne a donné naissance à un archéologue qui s'appelle Henri Convert.
Alors là, non, ça c'est complètement oublié. Il faut arriver au musée Delphes pour voir Henri Convert. Mais parce que même à Coulanges-sur-Yonne, je suis sûre qu'il n'y a vraiment plus grand-chose sur sa tombe de mémoire. Enfin voilà. Ouais. Donc c'est quand même lui qui a organisé tous les travaux archéologiques. Voilà. Donc le musée porte son nom. Quoi. C'est énorme. C'est un travail. Ouais. Bon, on a eu pas mal d'archéologues et de gens qui ont travaillé dans ce domaine dans Lyon. C'est vrai.
Alors, sa famille est originaire de Maligny. L'homme est né en 1907, c'est Jacques Lafarge.
Ah oui, ben ça c'est aussi...
Alors, Jacques Lafarge, c'est un inventeur.
Personne ne sait qui c'est.
Est-ce que vous allez nous dire, Josiane Maxelle, qui est Jacques Lafarge et ce qu'il a inventé?
Alors, si je vous dis pastille puis molle, tout de suite, tac, ça va déjà mieux. Donc, il est né en 1907. Et donc oui, il est de Maligny. Il venait en vacances régulièrement, dans notre belle région. Et puis il a fait sa carrière professionnelle à Châteauroux. Donc il a épousé la fille d'un pharmacien. Et puis donc ce pharmacien, c'était Victor Hélin, qui est lui-même inventeur de la quintonine. Et puis donc en 1946, donc il a pris la succession. Il met au point un sirop, une pastille, et il va devenir très riche grâce à la pastille Pulmolle.
Donc finalement, on se rend compte qu'on apprend énormément de petites anecdotes.
Oui, j'ai même pas pu parler parce qu'il y a un autre inventeur célèbre mais qui est toujours vivant. À Lavaux, en fait, il y a l'inventeur des sirops Tesser qui a une belle maison et qui vient régulièrement. Oui, oui. Mais je peux pas le mettre. Parce que voilà, il y a les personnages, mais voilà, il faut respecter les critères.
Alors, on a là, je crois, rendu hommage à un certain nombre de personnages qui avaient donc un lien plus ou moins étroit avec Lyon et qui sont des oubliés. On va maintenant évoquer des figures nettement plus connues,
oui,
je pense, auprès de nos auditrices et auditeurs. Alors, bon, Jacques Amyot, qui est mort à Auxerre à la fin du XVIe siècle, grand humaniste, ce n'est pas effectivement qu'un lycée, c'est aussi une grande figure du
mais
monde.
Mais assez peu connu, il ne faut pas croire non plus que c'est un personnage très très reconnu dans notre département ou dans certains milieux.
Alors, puisqu'on est dans le monde des humanités, le lien est assez trouvé avec cet helléniste né en 1925 et mort en 2005, c'est Jacques Lacarrière.
Mais oui, mais ça c'est vraiment un grand personnage, moi j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Donc, avant de venir dans Lyon, il y a très très longtemps, enfin, j'avais lu Chemin faisant, donc il m'avait bouleversée. Donc, c'est un livre où Jacques Lacarrière raconte sa traversée de la France. Ça m'avait beaucoup touchée à l'époque. Mais c'est vrai que sa carrière, elle est surtout celle d'un helléniste. C'est quelqu'un qui connaissait parfaitement la Grèce antique. Donc, il s'est fait opérer du genou, puis il n'est jamais sorti de l'hôpital. Quoi. Oui. Donc, c'était une catastrophe qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc, c'était un grand voyageur. Et la bibliothèque d'Auxerre porte son nom.
Il a vécu dans le village de Sassy,
ah, oui, oui.
qui a vu naître le personnage que vous n'aimez
ah, ben,
pas,
oui,
qui est Rétif de la Bretonne.
Mais c'est pas que je l'aime pas, mais bon, ses écrits sont un petit peu sulfureux. Il faut tout pour faire un monde.
Alors, Paul Bert. Alors, Paul Bert, c'est pas qu'un pont à Auxerre.
Ah non, Paul Bert,
Paul Bert, c'est qui est né dans un hameau de Venois. Il est né à Montalry en 1833. Il meurt d'ailleurs très, très loin de Lyon, Paul Bert, puisqu'il meurt au Vietnam, à Hanoï. Et qui était Paul Bert ?
Paul Bert, on connaît parce que on connaît surtout son rôle en fait politique, mais il faut pas oublier que c'était un scientifique. Donc c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Bon, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, quand on parle de l'école, comment libre et gratuite, on pense Jules Ferry, mais c'est Paul Bert, c'est aussi Paul Bert et surtout Paul Bert. Donc c'est vrai que c'est un personnage. Qui a eu plusieurs vies, donc c'était difficile de faire le choix, mais c'est vrai que c'était un spécialiste de la plongée. Enfin, il y a plein de choses intéressantes sur Paul Bert. Moi, je suis pas une spécialiste, mais j'ai mis que les grandes lignes parce que finalement, bon, on a la chance d'avoir quand même beaucoup d'informations.
Alors, Jean Bertin, restons dans l'univers scientifique. Saint-Georges-sur-Bauche a son collège, c'est le collège Jean Bertin.
Oui, mais c'est surtout Drouilly-Bellefontaine, Jean Bertin.
Donc, c'est son village natal.
Oui.
Et qui est Jean Bertin?
Bah, Jean Bertin, c'est un ingénieur, c'est un fou furieux qui a inventé plein de choses. Et aujourd'hui encore, faut pas oublier que les trains qui sont au Japon utilisent le système qu'a inventé Jean Bertin, c'est-à-dire l'aérotrain. Donc il y a encore une association des amis de Jean Bertin. J'ai eu la chance aussi de pouvoir les rencontrer parce qu'il y a eu une expo à Drouilly il n'y a pas si longtemps sur Jean Bertin. Donc voilà.
Joseph Fourier, encore une figure scientifique. Là, on est au XVIIIe siècle.
Alors, Fourier, on connaît les séries Fourier. Ça, c'est les scientifiques connaissent ça. Bon, oui, c'est vrai que c'est un personnage assez méconnu. Bon, c'est un petit peu compliqué ces histoires de séries. C'est lié aussi à des. Enfin, c'est des séries mathématiques. C'est assez complexe.
Et c'est lié. Enfin, il a travaillé sur la théorie analytique. De la chaleur, et vous nous expliquez, Josiane Maxelle, que Joseph Fourier fait partie des 72 savants dont le nom est inscrit sur la Tour Eiffel.
Mais oui, on n'a pas tant que ça, finalement. On n'a pas tant que ça, et voilà. Donc, il y a vraiment des personnages qui sont dans le monde scientifique, mais qui sont connus. Certains sont connus dans un secteur très, très particulier. Donc, notamment, Joseph Fourier, c'était un physicien. Voilà. Mais il a aussi été diplomate.
Un petit mot sur Bienvenue Martin.
Oui.
Parce que là aussi, l'avenue Bienvenue Martin, il y a le collège Bienvenue Martin à Auxerre, et finalement, on a l'impression que ces personnages sont très très proches de nous, dans notre quotidien, mais finalement,
ça
il n'est jamais inutile d'en rappeler les origines et l'identité.
C'est la mémoire populaire. Donc il est né à Saint-Brie-le-Vineux, donc il est mort en 1935, il a été député de Lyon, sénateur, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Donc voilà, ministre du Travail, bon, c'était un docteur en droit, voilà, il a eu une carrière assez brillante, et puis donc il a commencé une carrière politique auprès de Paul Doumer, voilà, dans les rangs républicains radicaux, voilà.
Alors avant de poursuivre notre causerie avec vous, Josiane Maxel, on va marquer une nouvelle petite pause avec une femme que vous adorez, c'est Véronique Sanson, et Besoin de personne, c'est un choix de notre invité que l'on retrouve dans quelques minutes sur Radion à bord de Wagon Livre.
Whoa. quand je me suis fait ma loi, besoin de personne. Quand il est venu vers moi, vers moi, oh, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toute sa vie. Je crois que j'ai dit oui.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous écoutez l'émission littéraire de votre radio locale sur le 90.5 ou en direct via internet sur le www.radion.fr. Je rappelle que si vous avez manqué le début de notre émission séance de rattrapage dans quelques jours sur le site de Radion, rubrique podcast, et juste avant c'était Véronique Sanson, Besoin de personne, un titre de 1972, Josiane, oui, extrait de l'album Amoureuse.
Je l'aime depuis longtemps, Véronique Sanson.
Alors, le temps passe vite de notre côté. Alors, du côté de Sens, Stéphane Mallarmé, par exemple, le grand poète Stéphane Mallarmé, oui, a eu une maison à Sens. Alors, on va passer un peu vite parce qu'on est obligé d'avancer un peu. Robert Brasillac a été lycéen à Sens. Saturnin Fabre, le comédien,
ah, oui,
y est né.
Oui, inénarrable.
Et puis Catherine et Raymond Jeannot, j'aimerais que vous nous parliez de ce couple.
Oui, en fait, c'est vrai que pour les résistants, j'ai pas fait une liste exhaustive parce que voilà, je pense que ça nécessiterait voilà de faire carrément un ouvrage, mais j'ai mis quand même quelques noms et notamment dans la rubrique concernée donc au couple Catherine et Raymond Jeannot. Donc j'ai donné des informations sur leurs opinions politiques et puis le fait qu'ils ont été dans la résistance. Donc voilà, elle a servi de boîte aux lettres. Enfin bon, bref, il y a eu
ils se sont mobilisés en tout cas pour leur pays et ont vraiment
l'appartenance
fait
d'un réseau, etc. Voilà. Mais c'est vrai que par exemple dans l'article qui leur est consacré, j'ai rajouté d'autres noms de manière à ce que voilà finalement on retrouve quand même certains personnages qui n'ont pas forcément d'articles nominatifs, mais ça me permet comme ça d'évoquer des personnages importants qui font partie de notre histoire. Voilà.
Avant de quitter le Sénonais, on rappellera qu'Aristide Bruand est enterré dans un village du Sénonais. Il est enterré à Subligny.
Oui, oui, qui est un petit village, mais c'est quelqu'un qui était très connu en son temps. Hein. Le Chanois, tout ça, c'est un chansonnier.
Joigny. Alors arrêtons-nous à Joigny. Alors à Joigny, on y apprend par exemple que Saint-Vincent de Paul, qui n'est pas né à Joigny,
oui,
mais a été précepteur des enfants du prince de Gondi,
oui,
à Joigny.
Mais oui, ça c'est... Quand on fait la visite guidée de Joigny, d'ailleurs, c'est expliqué. Donc on nous donne des informations. Mais c'est vrai que Saint-Vincent de Paul, bon, voilà, je l'ai mis parce que c'est un personnage quand même très très important.
Alors, le romancier, auteur d'Uranus ou des contes du chat perché, Marcel Aimé, est né 1902 à Joigny. Un petit mot, Josiane Maxel, sur Louis Davier, figure jovinienne également.
Donc, il a été lieutenant sur Joigny. Et puis, donc, il a écrit aussi les mémoires pour l'histoire de la ville et du comté de Joigny. Donc, c'est toujours une référence. Et puis, il a laissé une somme importante à l'hôpital général de Paris. Il a légué aussi une maison pour créer un collège. Donc, voilà, il a laissé aussi un fonds très important à la bibliothèque municipale. Donc, voilà, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'il y a un collège, mais on ne sait pas tout de Louis Davier.
On quitte Joigny. Alors, sur Auxerre, là, on va essayer d'aller un petit peu vite. Vous parlez de Paul Leblanc du Vernois. Qui a un lien avec le musée actuel rue des Glonies.
Oui, c'est son nom qui a été donné parce qu'effectivement, il y a eu toute cette collection de faïence.
Alors, j'ai été très heureux d'apprendre que Germaine de Staël avait séjourné
à
Auxerre. Je ne le savais pas. Merci, Josiane Maxel. Grâce à vous, j'ai pu augmenter un peu ma culture. Alors, bien sûr, il y a cette poétesse auxerroise, Marie-Noël.
Marie-Noël. En fait, moi, je ne connaissais pas trop Marie-Noël. C'est vraiment quelqu'un qui mérite une place importante. De surcroît, il y a peu de femmes qui sont des personnages célèbres. Donc dans mon livre, donc Marie-Noël, si vous la mettez dans la catégorie poétesse catho, un peu tristounette, erreur grossière, il faut tout reprendre.
Il y a les contes de
Marie-Noël. Relire Marie-Noël. Il y a une profondeur, enfin pour moi c'est quelqu'un d'important et voilà.
Bien, donc beaucoup. Recommandation de notre invité, relire Marie-Noël, d'autant plus que cette année on commémorera le 130e anniversaire de sa naissance. Alors à côté de la poétesse catholique, cette bonne dame d'Auxerre, il y a des meurtriers. Je pense notamment à celui qui est né rue de Paris à Auxerre en 1897. C'est Petiot, célèbre docteur Petiot de triste mémoire, qui en plus a habité à Courson-les-Carrières.
Oui, bah ça, peu de gens savent. Moi, je sais même exactement où, mais je ne le dirai pas. Mais c'est vrai que oui. Et Petiot, bon, on sait Villeneuve-sur-Yonne, tout ça, mais il y a eu et récemment, il y a même. Comme aux éditions de la Gazette, il y a eu un...
Rémi Couvignou a écrit une biographie, effectivement,
très intéressante, qui donne un regard différent, parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y a aussi un regard politique à apporter à cette histoire. Donc voilà, mais Petiot, c'est un tueur en série, donc médecin, personnage horrible, mais il fallait bien que je le note, puisqu'il fait partie de notre histoire aussi.
On quitte Auxerre, alors Brinon sur Armançon, je l'évoque parce qu'il repose un chansonnier poète, c'est Pierre Louqui.
Ah oui, bah ça, pour l'instant, on n'oublie pas. Il y a même un spectacle qui se joue, il y a des spectacles qui se jouent assez régulièrement. Oui, mais Louqui, ça fait vraiment partie des gens importants. De Brinon.
Brinon sur Armançon. À Irancy. Alors, Irancy.
Enfin, Louqui, il est né en 1920, donc c'est vraiment quelqu'un qui nous a quittés il y a pas si longtemps, en 2006. Hein. Donc voilà. C'est quelqu'un qui est intéressant. Et puis, on a encore beaucoup de... Catherine Sauvage, Francesca Solivi, Isabelle Aubray
chantait les chansons écrites par Pierre Louqui. On se rend à Irancy, où est né celui qui, effectivement, est l'architecte de ce Panthéon à Paris.
L'église du Panthéon
à Paris. Alors, Soufflot, Jacques-Germain Soufflot est né en 1713... Et il meurt en 1780. Et effectivement, la commune d'Irancy a vu naître ce grand personnage.
Oui, puis il a fait la petite église de Cruzy-le-Châtel. Donc c'est sympa aussi de savoir qu'on a, une œuvre de cet architecte. Mais à Irancy, en revanche, il est assez... Enfin, on parle de lui, donc il n'est pas oublié.
Vous l'aurez compris, notre invitée Josiane Maxel, passionnée de patrimoine, curieuse des richesses de Lyon et auteure des personnages de Lyon que l'on peut se procurer en librairie aux éditions du Panier d'Ortie. Notre invitée a beaucoup de choses à dire encore. On va simplement la laisser respirer un peu. On va marquer un nouveau temps de pause. C'est un choix de notre invité. On écoute la valse à mille temps, ça date de 1959, et c'est Jacques Brel, bien sûr, disparu en octobre 78, ça fera d'ailleurs 35 ans cette année.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. et Paris qui bat la mesure me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, offre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, face aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
À l'instant, la valse à mille temps de Jacques Brel. Nous sommes à bord de Wagon Livre avec Josiane Maxel pour Personnages de Lyon, ouvrage disponible aux éditions du Panier d'Ortie. Josiane Maxel, un petit mot d'un météorologue méconnu et qui pourtant est le créateur de quelque chose d'indispensable.
Mais oui, aujourd'hui on pourrait plus vivre sans, parce qu'en fait André Viaud, donc qui est de Civry-sur-Serein, donc qui est né en 1899, il a fait ses études à Tonnerre et à 31 ans il a eu la Légion d'honneur. Et savez-vous pourquoi? Puisqu'il avait tout simplement réalisé des bulletins, voilà, pour l'aviation. Et donc, c'était un expert international. Et c'est lui qui a mis les premiers bulletins météo. À l'époque, il n'y en avait qu'une fois par semaine à la télé. Et donc, il est mort dans un accident, bêtement, en 73, à Poitiers.
Alors, encore un personnage très méconnu et qui vous est cher, c'est Gustave Kekrès.
Ah oui, alors lui, encore Châtelet-Sansoir. Donc lui, il a travaillé à la cour du tsar de toutes les Russies et il a inventé le système à chenilles.
Ce qui effectivement n'est pas négligeable. On se propulse en chenille, ou plutôt en aéroglisseur, jusqu'à Tonnerre. Alors, voilà une belle cité qui a vu naître en 1728 le fameux chevalier d'Eon. Le marquis de Louvois est également passé par Tonnerre. Il acheta d'ailleurs le château dans Silfranc. On pourrait évoquer Nicolas Boileau, alors l'auteur classique par excellence de l'art poétique, aurait possédé donc des vignes dans le Tonnerrois. Il y a Émile Bernard qu'on peut mentionner, le général et ministre Campenon, hein, il y a une rue Campenon, voilà. Et puis Armand Collin, le libraire Armand Collin. Petit clin d'œil à Sylvie et Jean-Jacques Ricard de la librairie Plume et Images. Et puis Abel Ninard, encore une figure haute en couleur de la résistance. Et alors on s'arrête à Épineuil, parce que Josiane Maxwell, à Épineuil, vous aimez parler d'un homme qui y est né en 1827, qui est mort en 1892, c'est Alfred Grévin.
Mais oui, Alfred Grévin, pourquoi ? Parce que voilà, le musée qui porte son nom, c'est quand même le deuxième musée le plus visité à Paris. Donc c'est très très important. Je crois qu'ils viennent d'ouvrir un musée Grévin au Canada aussi. Donc c'est le deuxième musée Grévin. Donc voilà, bah Grévin, il était caricaturiste, donc dessinateur de presse, et puis donc il dessinait des petites femmes. Et puis donc finalement on le connaît plutôt pour son musée à l'heure d'aujourd'hui, donc qui est ouvert en 1882.
J'aimerais qu'on s'arrête sur un homme dont la mort n'est pas très certaine, crime ou accident, c'est du côté de Saint-Mauré, c'est le père Leleu.
Ah oui, mais
alors,
ça,
qui est ce père Leleu?
Ben ça, c'est un personnage anecdotique, entre guillemets, c'est-à-dire c'est un personnage qui a fait Lyon aussi, puisqu'il y a quand même eu... ce personnage qui était un ermite, et puis il y a eu des cartes postales, enfin il y a tout, c'est le fait divers par excellence, donc il est mort dans des conditions mystérieuses, donc voilà, donc le père Leleu, ça fait partie des personnages aussi de Lyon.
Alors du côté d'Avalon, alors il y a des familles importantes, il y a les Audebert, il y a Ernest Cœur de Roi, il y a Augustin Nicolas Caristi, Gaston Chessac, hein, dont la maison est aujourd'hui l'actuelle bibliothèque au centre-ville d'Avalon, il y a la famille de Châtelus, il y a Jean Després, l'orfèvre, Jean Després,
oui,
incontournable.
Després, ça me fait penser à Blonda aussi, parce que donc c'est des gens que j'aime beaucoup et voilà, j'ai beaucoup d'admiration.
Pierre Vigoureux aussi, grand sculpteur, qui a été le professeur d'Henri Vincenot et qui a sculpté le monument aux morts d'Avalon.
Oui, ça je le savais.
Hein. Vous parlez aussi de la dynastie des Flandins. Un petit mot sur Vauban. Parce qu'entre Bazoche et Avalon, il y a l'ombre de Vauban.
Oui, mais Vauban, c'est un personnage, un grand serviteur de l'État. Et donc, on le rattache à Bazoche, mais c'est une erreur, si on veut, puisque son château de naissance, donc, c'était sur un site qui s'appelle Vauban. Donc, il y a toujours ce petit château, d'ailleurs, qui existe. Et donc Sébastien Vauban... a donné son nom maintenant, il y a Saint-Léger-Vauban. Bon, c'est quelqu'un qui est connu dans la France entière parce que partout où on va, il y a des citadelles. Donc voilà, et vous savez qu'il y a eu un classement aussi UNESCO de toutes ces citadelles. Mais voilà, on redécouvre un Vauban tous les jours parce que Vauban, il a aussi écrit sur bien d'autres domaines, pas forcément
sur
que militaire.
Notamment.
Tout à fait. Mais enfin voilà, c'est un personnage très attachant. On redécouvre des choses et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il est né un 1er mai. Donc ça aussi, je trouve que c'est un pied de nez à l'histoire. C'est un énorme travailleur.
Parlons de Vézelay. Alors à Vézelay, Josiane Maxwell, vous mentionnez un très 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 grand nombre d'écrivains, d'artistes liés à la colline inspirée. Déjà son fondateur, hein, Gérard de Roussillon, il y a Georges Bataille qui est enterré à Vézelay, le couple Zervos et leur maison au hameau de la Goulotte, Jules Roy, Maurice Clavel, Max-Paul Fouché, dont on va beaucoup parler cette année puisque c'est le centenaire de sa naissance. On aura d'ailleurs l'occasion, je pense, avec sa fille Marianne d'en parler dans Wagon Livre sur Radiole. Et puis, il y a un grand pacifiste qui vous est cher, un prix Nobel de littérature, c'est Romain Rolland, qui est né à Clamecy d'ailleurs.
Oui, en 1866, et il est mort à Vézelay, et il est enterré aussi dans la Nièvre, parce qu'il est enterré à Brève. Voilà.
Oui.
Mais bon, son bureau, en fait, c'est le musée Servos, hein, donc la maison Romain Rolland, c'est le musée qui aurait dû porter son nom, pour moi. Donc voilà, donc c'est un écrivain engagé, il a reçu le prix Nobel de littérature, vous l'avez dit, en 1915. C'est un normalien, c'est quelqu'un qui a rencontré
Gandhi,
et puis Strauss, Freud, enfin bon, voilà. Et puis donc, il y aura encore des choses à découvrir, j'en suis certaine, puisqu'il y a une importante correspondance qui reste encore, qui est mise à jour, mais il faut encore la repotasser, et puis voilà, et Romain Rolland, il y a encore... sont toutes plein de choses à redécouvrir sur le personnage. Mais enfin, ses écrits, notamment relisés du Romain Rolland.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir autour du personnage de Colette, née à Saint-Sauveur en Puisaye? Voilà une femme écrivain à laquelle vous êtes, Josiane, très attachée.
Ben, au départ, Colette, franchement, c'était pas forcément un personnage que j'aimais. Bon, bien sûr, ses écrits, ses descriptions, bon, voilà. Et puis, j'ai eu la chance d'aller à quelques conférences, justement, des amis de Colette. Et puis, j'ai redécouvert aussi le personnage. Bon, voilà, c'était une journaliste. Bon, elle a une vie assez tumultueuse. Mais ses écrits restent vraiment intéressants dans le travail.
Le regard admirable qu'elle a aussi sur les animaux.
Voilà,
sur
c'est
les
ça. Chats, voilà, notamment. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que bon, Colette est connue aussi dans le monde entier. Donc voilà, c'est vraiment un des personnages phares.
Colette de France, comme l'appelait Marie-Noël. Et puis du côté de la Puisaye, Josiane, parce qu'on arrive au terme de l'émission, on est obligé de se restreindre. Il y a la grande mademoiselle, il y a Michel Lepelletier, il y a bien sûr Pierre Larousse, incontournable.
Ah oui, grand travailleur.
Robert Gall, le père de France Gall. Enfin, on ne peut pas tout dire ce soir, mais on vous invite à aller retrouver ces éléments dans le livre de notre invité, parce qu'on y apprend par exemple que la grande Sarah Bernhardt venait à Meurice autour, que Joséphine Baker avait fait une apparition au cabaret L'Escale à Mégène, que la première femme aviatrice est née à Joigny en 1871, ou encore que Claude Debussy avait loué une maison à Villeneuve-la-Guyard, au hameau de Bichat.
Il écrit la mer dans Lyon, c'est incroyable.
Et on y apprend aussi que Blénaud est le berceau des voitures à transmission automatique à travers le travail de Gaston Fléchel. En tout cas, les personnages de Lyon sont à découvrir à travers le travail remarquable de Josiane Maxel. Josiane, merci d'avoir été ce soir l'invitée de Wagon Livre pour Radio Lyon. Bonsoir.
À bientôt.
Thank you.